Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors, Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, alors rapidement, trois figures aujourd'hui qui nous parle du témoignage, hein, le témoignage, le martyr en grec, là, trois figures tout simplement reprenant les lectures, Isaïe, Paul et Jean-Baptiste. Et chacun à sa manière attire notre attention sur une dimension essentielle du témoignage. La première dimension, celle d'Isaïe, c'est le lien entre celui qui témoigne et ceux à qui il s'adresse. Témoigner, ce n'est jamais apporter une information extérieure à soi-même, à des gens qui nous sont extérieurs. Le témoin est toujours impliqué et il l'est à un double titre. Il l'est par le message qu'il va annoncer et il l'est par ceux à qui il s'adresse. Voilà, ça c'est, on en a tout à fait l'exemple dans la vie du prophète Isaïe, ce prophète du moins 8e siècle, qui décrit sa vocation au chapitre 6. Toute la vie d'Isaïe dépend de ce chapitre 6. Il est dans le temple et il voit la gloire de Dieu. Et à ce moment-là, Isaïe croit qu'il va mourir. Et il dit : « Je vais mourir car je suis un homme pécheur et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Et là, un ange arrive avec un charbon ardent, lui touche les lèvres et le purifie. Et résonne une question dans le temple, la voix de Dieu qui dit : qui enverrai-je ? Et c'est là que Isaïe se propose : me voici, envoie-moi. Et juste après, Dieu annonce ce que va être la vie d'Isaïe. C'est pas vraiment une prophétie, mais c'est ce passage, vous savez, qui est repris par Jésus dans les évangiles. Voilà, ils verront sans voir, ils entendront sans comprendre, de peur que leur cœur ne se convertisse et qu'il retrouve la vie. Voilà, toute la vie d'Isaïe dépend de ce moment où il a vu la gloire de Dieu. Et je repense à un livre qui décrivait, enfin, non, pas un livre, qui est le journal intime de Madame Svetchin. C'est une dame qui tenait un salon au 19e siècle, un salon spirituel dans lequel est passé notamment Don Guéranger. Et alors il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué dans ce livre, elle disait, elle qui était tenue comme une femme très religieuse et d'une grande foi, qui a été un roc pour beaucoup de personnes, elle disait: finalement toute ma vie de foi dépend d'un seul moment où j'ai eu la certitude de l'existence de Dieu. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour Isaïe. Toute sa vie dépend du moment où il a vu la gloire de Dieu dans le temple. Toute sa mission dépend de ça. Elle dépend de ça, mais elle dépend aussi de la relation avec le peuple. Dès le début, il dit : je suis un homme impur qui habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et dès le début, sa mission est liée à l'échec qu'il va rencontrer avec la communauté. Et ça, on en a une très belle image dans la première lecture. Vous pourrez la relire. On ne sait pas s'il s'agit d'Isaïe ou s'il s'agit d'Israël. Les deux sont liés. Et on a du mal dans les chants du serviteur à savoir ceux qui touchent vraiment le peuple et ceux qui touchent Isaïe, à proprement parler. Il y a vraiment une communauté de destin. Et Isaïe, il vit sa vie pas simplement comme quelqu'un qui est à côté du peuple et qui leur montre un exemple. Il sait que de sa vie dépend aussi, d'une certaine manière, la vie du peuple. Un peu comme Edith Stein qui, le soir dans son Carmel, tenait les bras en croix et qui faisait passer tous les noms des personnes qu'elle portait dans la prière. Et en faisant ça, elle reprenait le geste de Moïse. Hein. Moïse, pendant la bataille, qui, dès qu'il élève les mains, il remporte le combat. Voilà, ce lien que nous avons chacun avec les autres, chacun avec toute la communion de l'Église, et puis aussi avec tout homme. Hein. Nous avons une communauté de destin. Un homme, c'est toujours quelqu'un qui est appelé à rencontrer Dieu. C'est pour ça qu'on est catholique. Être catholique, c'est croire que tout homme est concerné par le message divin. Que tout homme doit être sauvé par Jésus-Christ. La deuxième personne, le deuxième témoin, c'est Paul. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens que nous venons de commencer, commence par ça. Il commence par dire... Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus. Alors, Paul, pour nous, c'est aussi quelque chose de très réconfortant. C'est dans les écrits de Paul, il y a tout à la fois cette vocation personnelle. L'Église, c'est un corps, et on n'a pas tous la même façon d'œuvrer dans ce corps. La main, c'est pas le pied, et ça, c'est vrai pour le témoignage. Nous ne sommes pas tous des témoins de la même façon. Voilà, témoigner, c'est pas forcément porter un t-shirt avec marqué Jésus. Ça peut passer par des choses bien différentes. Et il faut pas être complexé de se dire je fais pas de guitare dans la rue en parlant de Jésus, donc je suis pas un témoin. Non, parce que la grâce est multiforme et il faut. Voilà, il faut avoir confiance dans les différents chemins qui sont généralement des chemins complémentaires. Mais il y a un autre aspect quand même de la théologie paulinienne, c'est que nous sommes tenus de témoigner. Nous sommes tenus de témoigner parce que c'est la foi qui sauve et fide ex auditu. Si on ne dit pas la foi, les gens ne peuvent pas l'entendre. Et s'ils ne l'entendent pas, ils ne peuvent pas croire. Donc, notre témoignage peut passer par des voies très différentes, mais d'une manière ou d'une autre, il faut que nous témoignions de Jésus-Christ. Là où nous sommes, avec les personnes que nous côtoyons, mais ce témoignage doit être dit. Il doit être dit, pas forcément par les lèvres, mais il doit être dit. Voilà, et puis le dernier témoin, c'est Jean-Baptiste. Là on est juste après le baptême. Et en fait, Jean-Baptiste est avec ses derniers disciples. Et il envoie ses derniers disciples, ses disciples privilégiés, suivre Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Alors Jean-Baptiste, c'est vraiment la figure aussi de l'aspect théologal de notre témoignage. Si vous lisez l'édito de cette semaine, vous verrez le scandale de Don Bruno suite à un sondage de la Croix. Parce que la Croix a fait une espèce d'étude un peu de qui sont les catholiques en France aujourd'hui. Donc il y a plein d'aspects qui sont passés au crible. Là, on regarde si les catholiques, aiment le pape François ou n'aiment pas le pape François. On regarde si les catholiques aiment la messe en latin ou n'aiment pas la messe en latin. On regarde s'ils ont participé à la manif pour tous ou pas. Il y a tout un spectre. Il manque juste une question, c'est est-ce qu'il croit en Jésus-Christ? Et voilà, il ne faut pas qu'on soit dupe aussi, parce que nous ne sommes plus dans une société de foi, et donc nous sommes dans une société qui comprend mal la foi. La foi chrétienne, c'est pas la foi musulmane. C'est pas bien sûr le même contenu, mais c'est aussi pas la même façon de croire. C'est pas la même façon de poser un acte. La foi chrétienne, c'est pas une pure adhésion intellectuelle aussi. Ce n'est pas ça. Il faut être assez. Faut revenir à cet aspect théologal de notre foi. La foi, nous l'avons reçue le jour de notre baptême. Dans l'ancien rituel, on commençait comme ça. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que donne la foi? La vie éternelle. Le jour de notre baptême, nous sommes passés par la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça la foi. La foi, au sens justement de saint Paul aussi. La foi qui sauve, la foi qui change l'être. La foi qui met en contact avec une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une morale, il n'y a pas une grande idée. Il y a la rencontre de Jésus-Christ. Nous disait le pape Benoît XVI. Eh bien, puissions-nous être toujours plus attachés en lien, en relation avec cette personne qui est la source et le sommet de notre vie. Amen. Proclamons notre foi, la foi de toute l'Église, en prenant le Credo 3.
Page 374. Credo in nous.